Bonjour à tous, merci d'écouter CILS FM 107,9 à Victoria, la station communautaire francophone la plus à l'ouest d'Amérique. Vous êtes dans le débrief, il est 16h en ce mercredi 26 octobre. C'est pluvieux avec 10 degrés au Mercure, au centre-ville. Alexis Gagnon qui vous accompagne jusqu'à 17h. Denis Lépine prend tout de suite l'antenne avec ses bulletins quotidiens. Je vous retrouve dans 4 minutes avec la météo détaillée. Ce sera suivi du bulletin des Nations Unies et de bien d'autres infos, provinciales notamment. En interview, plus loin dans l'émission, je rejoins notre chroniqueur régulier Jean-Christophe Leblond, avec qui nous reviendrons sur la manifestation étudiante de lundi à Ottawa, une manif qui visait le projet d'expansion du pipeline Trans Mountain de la compagnie Kinder Morgan ici en Colombie-Britannique. Restez à l'écoute, cette interview sera diffusée vers 16h40. Bonne émission à tous! La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Le gouvernement Trudeau a déposé un deuxième projet de loi visant à mettre en œuvre des mesures pour la classe moyenne. Le document comprend une mesure qui fera en sorte que la nouvelle allocation canadienne pour enfants augmentera au rythme de l'inflation à compter du 1er juillet 2020. Bill Morneau, ministre des Finances, a dit qu'en indexant ses prestations à l'inflation, le gouvernement protège les gains que les Canadiens ont réalisés grâce à l'allocation. Stéphane Dion a rencontré le ministre des Affaires étrangères du Bangladesh, Abul Hassan Ali, à Ottawa. Le ministre canadien des Affaires étrangères et son homologue se sont penchés sur des éléments de la relation entre le Canada et le Bangladesh. Ils ont discuté de sécurité, de commerce et de changement climatique. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint, rappelons, plus de 2,4 milliards de dollars en 2015. Le Bangladesh est le deuxième partenaire commercial en importance du Canada dans cette région de l'Asie. Nouveau rapport en provenance du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés. On y apprend entre autres que la croissance des ventes de médicaments anti-inflammatoires biologiques au Canada a presque doublé depuis 2010. Les ventes ont atteint 2,2 milliards de dollars en 2015. Le médicament biologique le plus vendu, Remicad, affichait une part de marché beaucoup plus élevée au Canada, presque 40%, qu'à l'échelle internationale, entre 12 et 23%. Le rapport, qui est axé sur l'année 2015, jette un regard rétrospectif sur les dernières tendances. Pour Parc Canada et la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, le mouvement des guides du Canada est très important. Des membres des deux ministères ont d'ailleurs pris part à une cérémonie tenue à Toronto. Le gouvernement canadien s'est dit résolu à faire découvrir à la population du pays les événements importants qui ont contribué à l'histoire canadienne. Catherine McKenna, ministre responsable de Parc Canada, a déclaré que pendant plus de 100 ans, les guides du Canada ont encouragé la création de liens d'amitié. Harjit Sajjan vient de prendre part à la réunion du groupe de ministres de la Défense à Paris concernant la lutte contre État islamique. Le ministre canadien a déclaré que le Canada et ses alliés doivent vaincre État islamique et nous y parviendrons, a-t-il souligné. Il a ajouté que le groupe doit continuer d'intervenir de manière agile pour stabiliser également l'Irak. Co-présidée par la France et les États-Unis, la réunion s'est penchée sur l'engagement des contributeurs clés à faire accélérer la campagne militaire de la coalition globale. À moins de 2 semaines du scrutin, le camp républicain se tourne vers le controversé plan de santé appelé Obamacare pour inciter les gens à appuyer Donald Trump. Ce dernier a d'ailleurs déclaré lors d'un rassemblement en Floride que plusieurs de ses employés avaient eu des problèmes avec le dit plan de santé. Un rapport gouvernemental vient d'ailleurs de révéler que les primes doivent augmenter en moyenne de 22% en 2017. Le plan coûtera en moyenne 296 $ par mois l'année prochaine. En Ontario, une ancienne infirmière de Woodstock a été arrêtée par la police provinciale concernant des allégations de meurtre sur 8 personnes âgées dans des maisons de soins infirmiers. Elizabeth Tracy May Wetlaufer fait face à 8 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. La police a confirmé lors d'une conférence de presse que les décès sont survenus entre août 2007 et août 2014. Les victimes étaient âgées entre 75 et 96 ans. Selon l'Association canadienne de l'assurance voyage, ce sont les préoccupations en matière de santé dans le monde et le manque de stabilité qui incitent les Canadiennes et Canadiens à revoir leur plan de voyage. L'association s'appuie sur les données d'un sondage du Conference Board du Canada. Le document révèle que le nombre de Canadiens qui achètent une assurance voyage est passé de 74 % en 2014 à 78 % l'an dernier. De plus, 47 % examinent régulièrement leur couverture d'assurance avant de partir. Au sport, au baseball majeur, eh bien, Cleveland a gagné le premier match de la Série mondiale 6-0 contre Chicago. Indians et Cubs s'affronteront à nouveau ce soir, toujours à Cleveland. Au hockey maintenant, victoire de Calgary 4-1 contre Saint-Louis. Dallas a eu raison de Winnipeg 3-2. Et Ottawa a blanchi Vancouver 3-0. Ce soir, le Canadien de Montréal, qui n'a pas encore perdu en temps réglementaire, sera à Brooklyn pour affronter les Islanders et Washington sera à Edmonton. Et dans la NBA, bien, c'est ce soir que les Raptors ouvrent leur saison régulière. Ils recevront les Pistons de Détroit. Hier soir, victoire notamment pour Cleveland. Les champions en titre ont vaincu les Knicks de New York 117-88.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine en ce 26 octobre. Bienvenue dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9, votre radio communautaire dans la grande région de Victoria. On jette un petit coup d'œil à la météo. On a actuellement 10 degrés au centre-ville de Victoria. C'est assez maussade. Le ciel est nuageux. On a eu de la pluie de façon intermittente au cours de la journée. La probabilité d'averse au cours des prochaines heures demeure assez élevée à 40%. On aura un maximum de 11 degrés au cours des prochaines heures. Demain, c'est sensiblement la même chose, 14 degrés, pluie intermittente en cours de journée, un maximum de 14. Vendredi, il y aura quelques petites éclaircies au programme, donc un mélange soleil-nuage pour la journée de vendredi 28 octobre. 13 degrés et une probabilité d'averse, oui, qui demeure à 40%. Samedi, les nuages reprennent le contrôle. Un ciel nuageux, 40% de probabilité d'averse, un maximum de 13 degrés pour le samedi 29 octobre. Dimanche, c'est nuageux, mais la pluie semble s'atténuer, du moins selon les prédictions d'Environnement Canada sur le portail météo.gc.ca. Donc, beaucoup de nuages dimanche 30 octobre, mais pas de pluie. Et pour l'Halloween, le 31 octobre, retour de la pluie, potentiellement avec une probabilité d'averse de 40%, un maximum de 12 degrés. Peut-être que les familles qui célèbrent l'Halloween en costume, qui font la tournée du voisinage, pourront passer entre les averses. Ça reste à voir, c'est encore loin, donc peut-être que la situation va s'améliorer. Pour le moment, ce sont les prédictions. Donc il est 16h07, on va se diriger vers le bulletin des Nations Unies. On se retrouve de l'autre côté pour les nouvelles provinciales.
Bonjour à toutes et à tous, Isabelle Dupuis pour ce journal de la radio des Nations Unies, avec en titre « Le Nigeria face à la pire crise humanitaire du continent africain ». Le point sur les opérations humanitaires en cours dans la ville irakienne de Mossoul, l'intervention du Burundi devant le comité CEDAW, il sera aussi question de la Somalie et en dossier « Gros plan sur le harcèlement des femmes parlementaires ». Le Nigeria fait face à la pire crise humanitaire sur le continent africain. Actuellement, près de 400 000 enfants sont confrontés à la famine et les populations ont peu ou pas d'accès aux vivres, à l'eau potable, à des services de santé, à la protection et à l'éducation. Les besoins actuels dépassent les capacités des agences humanitaires et l'OCHA, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, tire la sonnette d'alarme. Le plan d'intervention humanitaire pour le Nigeria pour 2016 n'est financé qu'à hauteur de 37%, alors que la sécurité alimentaire ne l'est que de 25%. Les précisions d'Orla Fagan, chargée de l'information à l'OCHA.
Le nord-est du Nigeria est essentiellement agricole et au cours des trois dernières années, les gens n'ont pas pu rentrer chez eux pour travailler la terre et planter. Il y a un mélange d'engins non explosés et de mines terrestres et aussi la crainte que Boko Haram ne revienne. Donc il y a cette énorme pénurie de nourriture dans le nord-est du Nigeria. Il y a 15 millions de personnes touchées par la crise. Il y a 7 millions qui ont besoin d'une assistance humanitaire et il y a 4,4 millions de personnes personnes souffrant d'insécurité alimentaire, ce qui signifie qu'elles n'ont pas accès à de la nourriture tous les jours. Dans les quatre États touchés dans le nord-est du pays, il y a 400 000 enfants de moins de 5 ans qui sont confrontés à une malnutrition aiguë sévère.
De son côté, la Somalie est frappée par une sécheresse importante suite au phénomène El Niño. Cette sécheresse touche non seulement le nord, mais aussi le sud du pays, grenier de la Somalie. Selon le Programme alimentaire mondial, sur les 5 millions de Somaliens qui souffrent d'insécurité alimentaire, 1 million n'arrive pas à manger quotidiennement. Et les 4 millions d'autres risquent de sombrer dans une insécurité alimentaire aiguë. Plus de 300 000 enfants sont touchés, dont 50 000 qui sont à risque de malnutrition sévère qui exige un support thérapeutique. Sur place, le PAM s'active pour allouer ses ressources limitées aux plus vulnérables, comme l'explique Laurent Boukara, représentant du PAM en Somalie.
Pour l'instant, les enfants de moins de 5 ans et nos activités en nutrition sont les plus priorisées. On essaie de garder les enfants en dehors d'une situation de malnutrition aiguë. C'est vraiment le point le plus critique. Le reste des populations, on leur donne une assistance en sécurité alimentaire sous forme de repas ou sous forme de titres repas, qui sont en fait des cartes digitales qui leur permettent d'avoir accès à un réseau de magasins dans toute la Somalie où ils peuvent faire leurs achats alimentaires. Ces gens que l'on vise sont les gens qui sont les plus vulnérables, ce sont les ménages qui ont des enfants en bas âge, qui ont des gens âgés. Ce sont les ménages qui sont dans les zones les plus frappées par la sécheresse.
En Irak, le Haut Commissariat pour les réfugiés a lancé un pont aérien pour acheminer plus de 7000 tentes à Erbil en prévision des déplacements provoqués par l'offensive de Mossoul. À ce jour, les combats ont fait plus de 10 500 déplacés, mais la majorité de ces personnes se sont dirigées vers le sud du pays où il n'y a pas encore de site pour les abriter. Le HCR a pour le moment établi 5 camps et prévoit d'en édifier 6 autres. Mais il faut par ailleurs trouver une solution au problème de l'accès à un terrain. Les explications de Bruno Guédo, représentant du HCR en Irak.
On est préparé pour abriter 130 000 personnes, mais on a terre pour établir des sites que pour 60 000 personnes. Donc ce décalage entre la disponibilité de tentes et la disponibilité de terre est un décalage qui nous préoccupe beaucoup. Il y a des problèmes par rapport au fait qu'il y a des terrains qui sont encore contaminés par des armes de guerre non explosées, qui sont trop près de la ligne du front. Il y a aussi le fait que la balance ethnique dans certaines zones est telle que nous ne saurions pas y ramener des Arabes sunnites de Mossoul sans causer des fortes tensions avec la population locale. Et il y a aussi le problème que la meilleure terre est parfois propriété privée et les propriétaires ne sont pas prêts de l'affréter aux institutions pour y établir des camps.
Retour sur l'Afrique via Genève où se déroulent les travaux du comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Le Burundi fait partie de la dizaine de pays examinés durant cette 65e session. Le comité CEDAW a entendu ce mercredi l'intervention d'Elisa Nkera Birori, assistante du ministre burundais des droits de la personne humaine, des affaires sociales et du genre. L'avocate a notamment insisté sur les mesures prises en matière de lutte contre les VSBG, les violences sexuelles basées sur le genre. On l'écoute.
L'une des grandes innovations porte sur la mise en place et le fonctionnement des réseaux communautaires de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre, renforcés par les points focaux genre dans les tribunaux de grande instance, ce qui conduit au traitement des dossiers avec diligence et célérité. Les résultats atteints sont notamment l'éveil de conscience des hommes et des femmes sur le changement des mentalités et des normes sociales, la réintégration scolaire des filles après les grossesses précoces, l'adhésion des filles dans les filières à caractère scientifique, l'utilisation des méthodes contraceptifs, etc. Toutes ces avancées ont été enregistrées dans un contexte socio-économique difficile, exigeant beaucoup d'efforts du Burundi.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
L'Union interparlementaire a publié ce mercredi une étude qui confirme la dimension mondiale du sexisme, du harcèlement et de la violence contre les femmes parlementaires. Des fléaux qui entravent l'égalité des sexes et sapent le fondement de la démocratie. L'étude est basée sur des entretiens avec 55 femmes parlementaires de 39 pays couvrant 5 régions du monde. Elle souligne des niveaux inquiétants de violence psychologique, sexuelle et physique, ce que déplore le secrétaire général de l'UIP, Martin Chungong, joint par Jérôme Longuet.
Nous constatons que la représentation des femmes, il y a eu des progrès réalisés dans ce domaine où aujourd'hui les femmes représentent à peu près 23% des effectifs parlementaires à travers le monde. Nous avons constaté aussi que certaines régions se portent bien mieux que d'autres, par exemple les pays nordiques et les pays africains. Cela est dû au fait qu'il y a des mesures qui ont été mises en place par les autorités de ces pays. Nous disons également qu'il y a beaucoup de progrès qui doivent être réalisés et que nous ne devrons pas être complaisants. Nous devrons poursuivre les efforts que nous avons menés pour faire en sorte qu'on arrive à réaliser la parité homme-femme dans la vie politique en particulier.
Alors, est-ce que ça passe toujours par les fameux quotas?
Les quotas sont des mesures exceptionnelles parce que nous reconnaissons le fait qu'il y a des équilibres dans la façon dont les hommes et les femmes sont représentés dans des institutions de gouvernance. Donc il faut essayer de rétablir ces équilibres en adoptant des mesures exceptionnelles, des quotas, qui ont fait leur preuve. Mais il faut aussi penser à d'autres voies et moyens d'atteindre le même résultat. Donc il y a la formation, la sensibilisation des populations à la nécessité pour les femmes d'être représentées dans les institutions de gouvernance, montrer aux populations à quoi servent les femmes parlementaires, par exemple, et puis former les femmes parlementaires à la vie politique, les femmes qui aspirent à occuper des postes sur le plan politique, les former, leur fournir des opportunités de financement et d'autres moyens économiques, parce que le manque de moyens économiques et financiers constitue un obstacle majeur à l'accession des femmes à des postes de responsabilité au niveau politique.
On constate aussi qu'il y a des violences contre les femmes, où il y a des tentatives d'intimidation. Est-ce que ça également s'est pris en compte dans l'étude sur les femmes parlementaires ?
Oui, effectivement, l'étude que nous lançons porte sur le sexisme dans la vie parlementaire. Nous avons voulu mettre en exergue un phénomène qui prend de l'ampleur, c'est-à-dire le traitement dégradant des femmes parlementaires. Et cela pose problème parce que les femmes sont censées faire partie de l'élite d'une société. Et si l'élite elle-même est victime de ces intimidations, de ces traitements dégradants, c'est encore plus grave pour ce qui est des autres couches défavorisées de la société. Donc nous avons voulu jeter de la lumière sur cette question et voir dans quelle mesure nous pouvons mettre en place des mesures tendant à prévenir ce genre de traitement dégradant.
Est-ce que justement les femmes sont parties prenantes? Est-ce qu'elles ont pu faire des propositions pour essayer de surmonter ces obstacles?
Oui, nous avons interviewé dans un premier temps les femmes elles-mêmes parce qu'elles en sont les victimes et nous avons voulu recueillir leurs sentiments, leurs réactions, leurs émotions en la matière. C'est à partir de ce constat que nous pouvons envisager des mesures concrètes qui tendent à résoudre le problème, à juguler ce fléau. C'est lors de ces entretiens que nous avons constaté que les femmes aspirent à être traitées avec beaucoup de respect quand elles s'expriment au niveau du Parlement. Je pense qu'il y a quelques bribes de solutions qui émergent de cette étude que nous allons essayer de vulgariser dans les années à venir.
Et c'est avec Martin Chungang que se referme ce journal de la radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
16h18, vous écoutez CILS FM et l'émission s'appelle Le Débrief. C'est Alexis Gagnon qui vous parle en compagnie. Je suis en votre compagnie jusqu'à 17h. J'espère que vous allez bien. C'est la fin de journée. L'info se poursuit dans l'émission. On passe aux nouvelles provinciales à présent. On parle du projet Petronas, le projet méga, on peut même dire giga, dans le secteur énergétique. Ça se passe dans le nord de la Colombie-Britannique. C'est un projet qui a reçu son approbation, son aval du gouvernement fédéral récemment. Je vous lis la manchette qui paraît sur le portail de Radio-Canada aujourd'hui. Projet Petronas en Colombie-Britannique. Ottawa poursuivi par des groupes environnementaux et autochtones. Des nations autochtones et des groupes environnementaux canadiens ont déposé une poursuite aujourd'hui, jeudi, contre le gouvernement du Canada dans le but de révoquer un permis accordé à un projet de production de gaz naturel liquéfié en Colombie-Britannique, à savoir le projet Petronas, ce controversé projet de 27 milliards de dollars est menée par l'État malaisien. Donc, le groupe s'appelle Petronas, mais c'est l'État malaisien qui est derrière ce conglomérat qui regroupe également quelques intérêts chinois et japonais. C'est l'État malaisien qui a une participation majoritaire dans le projet. Donc, rappelons qu'en septembre, le Canada avait donné son feu vert à ce projet de gaz naturel liquéfié qui porte le nom de Pacific Northwest dans le nord de la province. 190 conditions avaient été posées, mais cela n'avait pas apaisé les inquiétudes des communautés locales qui soulignaient l'éventuelle destruction de l'habitat du saumon ainsi que la grande quantité de gaz à effet de serre que produira ce projet. Donc, lors de l'annonce le mois dernier, la ministre fédérale de l'Environnement, Catherine McKenna, avait dit que les effets négatifs du projet pouvaient être équilibrés. Donc c'est rapporté par Radio-Canada, comme je vous le disais, aujourd'hui sur le portail britanno-colombien et sur le portail RCI.net, qui est le portail de Radio-Canada international. Donc la poursuite en question qui se rapporte à ce projet a été déposée aujourd'hui en cour fédérale à Vancouver et elle risque de mettre en péril l'avenir de ce projet, avance Radio-Canada. C'est un projet qui avait déjà 3 ans de retard, rappelons-le. Et parmi les plaignants, donc, dans cette poursuite, on a les Premières Nations Gitanyao et Gixtan, ainsi que des groupes environnementaux comme Skeena Wild Conservation Trust, qui défendent le territoire et une utilisation réfléchie et respectueuse des ressources de la région. Donc, est-ce que cette poursuite pourra plomber le projet Petronas dans le nord de la Colombie-Britannique? Ça reste à voir. Si vous voulez avoir de plus amples détails et lire le texte intégral de cet article, c'est sur le portail de Radio-Canada, sous la plume de Paloma Martinez. On poursuit cette revue de presse provinciale. 9 wagons de marchandises déraillent près de Boston Bar, en Colombie-Britannique. 9 wagons et 2 locomotives ont déraillé le long du fleuve Fraser, près de Boston Bar, dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique, sans faire de blessés, a confirmé le Canadien national, le CN, qui exploite cette voie ferrée. D'après la porte-parole du CN, Kate Fenske, le train de marchandises du Canadien Pacifique a quitté les rails mardi vers 11h. Le train ne transportait pas de produits dangereux. Des équipes du Canadien national, appuyées par des machines de chantier, ont été dépêchées sur les lieux pour retirer les wagons et nettoyer le lieu de l'accident. Donc, Boston Bar, pour faire vite, c'est sur la transcanadienne dans la vallée Fraser. C'est au nord de la ville de Hope. C'est un petit peu au nord de la fameuse passe de Hell's Gate où l'on compte de nombreux tunnels. Donc, c'est une route assez sinueuse par endroits. Et ça vaut également pour la voie ferrée qui suit le fleuve Fraser à cette hauteur. Alors, c'est une zone assez accidentée et vous aurez cette nouvelle dans plusieurs médias. Donc, 9 wagons de marchandises qui ont déraillé près de Boston Bar. Un autre fait divers, cette fois concernant une attaque armée d'un comptoir de vente de marijuana. 3 hommes ont été arrêtés après une attaque armée au comptoir de vente de marijuana Stressed and Depressed de la 41e avenue à Vancouver. Une femme aurait participé au vol et elle est pour sa part recherchée. Selon la police, les suspects munis d'armes à feu ont saisi de l'argent et des produits du magasin. Ils ont également agressé un employé lors du cambriolage qui a eu lieu le dimanche 16 octobre. Ils ont été arrêtés il y a quelques jours, samedi 22 octobre. Les 3 hommes, Darnell Matsui, Osea Smith et Corey Robert Brown, tous dans la vingtaine, doivent répondre à diverses accusations, dont celle de vol qualifié avec violence. Les policiers demandent à toute personne au courant de l'identité de la femme complice, dont une photo a été communiquée suite à la surveillance, la vidéosurveillance du commerce. Donc, la police invite tous les témoins ou ceux qui disposeraient d'informations à prendre contact avec avec l'organisme Échec au crime. On va refermer le bloc provincial avec une actualité sportive. Je ne sais pas s'il y a des fans de Major League Soccer qui nous écoutent actuellement. On a quelques fans de l'équipe montréalaise L'Impact. On a aussi bien sûr des fans de l'équipe vancouveroise Whitecaps. Alors, c'est à propos des Whitecaps aujourd'hui. Le portail rds.ca nous annonce que le contrat de l'entraîneur-chef Carl Robinson a été prolongé. Les Whitecaps de Vancouver ont annoncé cette semaine qu'ils ont octroyé une prolongation de contrat à l'entraîneur-chef Carl Robinson, laquelle prolongation le liera à l'organisation jusqu'à la conclusion de la saison 2020 de MLS Major League Soccer. Ses adjoints Martin Peart et Gordon Forrest ont également vu leur contrat être prolongé. Donc, c'est la continuation du côté des Whitecaps. On va dans la continuité. La saison 2017 s'est enclenchée pour nous dès que le son du dernier sifflet s'est fait entendre dimanche, a mentionné le président de l'équipe Bob Lenarduzzi. L'annonce faite aujourd'hui est une indication que tout le monde dans le club a la même vision de notre avenir. Le travail abattu par Carl Robinson, oui, au cours de ses 5 années avec les Whitecaps démontre qu'il est l'un des meilleurs instructeurs de la relève en Amérique du Nord. Bien que la dernière année en ait été une d'apprentissage pour notre équipe, nous gardons une entière confiance en Carl, a poursuivi le propriétaire de l'équipe et président Bob Lenarduzzi. La formation de la Colombie-Britannique a terminé la saison 2016 avec une récolte décevante de seulement 39 points et une fiche de 10 victoires, 15 défaites, 9 matchs nuls. Cette équipe donc de Vancouver se retrouvait à 7 points du 6e et dernier rang, donnant accès aux éliminatoires. On fait une petite pause musicale, de retour de l'autre côté avec les nouvelles du jour. Pour l'instant, on écoute une pièce intitulée L'Okanagan. Donc c'est une pièce vraiment à thématique britano-colombienne dans le débrief. Et c'est par le groupe Les Sophilanthropes qu'on se retrouve de l'autre côté dans quelques minutes. La formation Les Sophilanthropes dans Le Débrief à 16h28. Si vous nous écoutez en rediffusion dans la matinée du 27 octobre, bienvenue dans l'émission. L'info se poursuit. On passe aux nouvelles du jour. Lac Mégantic, c'est une ville que plusieurs connaissent, plusieurs Québécois d'origine connaissent et plusieurs Canadiens, puisque la ville de Lac Mégantic a été le théâtre d'une tragédie il y a 3 ans, le 6 juillet 2013, lorsqu'un train emballé s'est écrasé au centre-ville après une longue course dans une pente et une course qui avait commencé quelques kilomètres avant l'entrée de la ville, et le train s'est abîmé au centre-ville, faisant plus de 40 morts. Une tragédie donc très importante qui a vraiment causé une commotion à l'échelle du pays. Et on apprend aujourd'hui dans les médias que le recours collectif qui est intenté suite à cette tragédie de 2013 vise maintenant la compagnie, donc la MMA, et le conducteur lui-même, le conducteur du train en cause. Donc la Cour supérieure du Québec accepte que le recours collectif intenté contre le Canadien Pacifique à la suite de la tragédie de Lac Mégantic en 2013 vise en plus le propriétaire du train et le conducteur du convoi funeste, nous rapporte la presse canadienne aujourd'hui. Le juge Martin Bureau a ainsi accédé à une requête des demandeurs visant à cibler aussi la société Montreal Main and Atlantic Canada, la MMA, depuis une entreprise qui est depuis sous la protection des lois sur les faillites. Et cette poursuite et ce juge, donc Martin Bureau, a aussi accepté que la poursuite vise le conducteur du train, Monsieur Thomas Harding. Donc le recours collectif visait initialement quelques 25 autres entreprises et particuliers qui ont ensuite conclu des règlements à l'amiable avec les victimes et les créanciers, rapporte la presse canadienne toujours. Il a été impossible de joindre mercredi l'avocat du conducteur. La Montreal Main and Atlantic Canada, la MMA, ne compte plus d'employés depuis sa faillite. Donc le Canadien Pacifique écarte toute responsabilité dans l'accident qui a fait 47 morts, été 2013. Le transporteur ferroviaire fait aussi face à une poursuite de 409 millions de dollars intentée par le gouvernement du Québec dans cette affaire. Le convoi pétrolier de la MMA, immobilisé sans conducteur pour la nuit, avait dévalé une légère pente puis déraillé à très vive allure au cœur de la petite ville de Lac Mégantic avant d'exploser au soir du 6 juillet 2013. Cet article de la presse canadienne rappelle les faits. Le conducteur de la locomotive, Thomas Harding, le contrôleur ferroviaire, Richard Labrie, le cadre de la compagnie MMA, Jean Demaître, ont plaidé non coupable l'an dernier aux 47 accusations de négligence criminelle qui pèsent contre eux. Donc, un dossier à suivre. En tout cas, un recours collectif qui est maintenant plus précis. On sait que le recours vise maintenant la MMA, qui est en faillite, et le conducteur. On se transporte sur la scène internationale du côté du Venezuela. On a repéré pour vous dans les pages du Courrier international une brève qui fait un petit peu le topo sur la situation très très volatile, très très agitée qui prévaut actuellement au Venezuela. On sait que les années de l'après Hugo Chavez ont été mouvementées. La situation au Venezuela, rapporte le Courrier international, est une véritable bombe à retardement. Et le Courrier international cite différents médias sud-américains. La crise politique qui secoue le pays est encore montée d'un cran ces derniers jours. Dimanche 23 octobre, la Cour nationale électorale a décidé de suspendre le processus de référendum lancé par l'opposition au mois d'avril dernier, un processus qui avait pour but de faire révoquer le chef d'État Nicolas Maduro. 2 jours plus tard, le Parlement, à majorité de centre-droit, a approuvé l'ouverture d'un procès en destitution du président et plusieurs manifestations pro- et anti-gouvernementales sont attendues au cours des prochains jours. Si la reprise du dialogue a été annoncée par un émissaire du Vatican pour le 30 octobre, l'opposition a démenti cette information et la tension continue de monter dans un pays qui est prêt à exploser, rappelle le Courrier international dans cet article qui est tout simplement intitulé « Caracas explosera-t-il » en date du 26 octobre. Sinon, je termine ce bloc nouvelle du jour avec une petite dépêche économique. Le dollar canadien a un creux de 7 mois. Donc, le dollar canadien, rapporte le journal Les Affaires aujourd'hui, plutôt hier, a touché un nouveau creux en 7 mois en début de semaine, poursuivant sa glissade après que la Banque du Canada ait laissé entendre la semaine dernière qu'elle avait jonglé avec la possibilité d'abaisser son taux directeur. Le dollar canadien s'échange actuellement à 74,71 cents US, en baisse de 0,37%. Ça, c'est un taux qui remonte au début de semaine, mais c'est sensiblement la même chose actuellement. Le comité de politique monétaire de la Banque du Canada a envisagé de réduire ses taux en raison de la faiblesse persistante de l'économie du pays, rappelle le journal Les Affaires. Les statistiques économiques publiées il y a quelques jours ont contribué à accroître la probabilité d'une nouvelle diminution des taux d'intérêt, un choix que devrait poser dans les prochains jours ou prochaines semaines la Banque du Canada. Donc voilà pour les nouvelles du jour. On retourne de ce pas en musique. On va écouter une formation qui s'appelle Chocolat, une pièce qui s'intitule Le Faucon, le Chacal et le Vaisseau Spatial. On vous revient avec les éditoriaux dans quelques minutes. La formation Chocolat dans le débrief à 16h37. Si vous nous écoutez en rediffusion dans la matinée du 27 octobre, bienvenue dans l'émission. C'est le moment de passer à la revue de presse des éditoriaux. On va essayer de couvrir le maximum. Je pense que j'aurai uniquement le temps de vous parler de ce papier signé par Paul Journet dans les pages du Journal de Montréal. C'est un article signé Paul Journet, donc qui est édité. Éditorialiste à la presse qui concerne les séries mondiales de baseball. Je l'ai remarqué et je voulais vous en faire part. Denis, un petit peu plus tôt dans l'émission, dans son bulletin sportif, vous a justement parlé des séries mondiales et de l'équipe de baseball dont il est question dans ce texte de Paul Journet, à savoir les Indians. Et vous voyez peut-être où je veux en venir. Le nom de cette équipe est controversé, spécialement, particulièrement en 2016. On commence à ouvrir les yeux finalement sur ces noms qui relèvent de l'appropriation. Alors je préfère vous laisser Paul Journet vous en parler parce que c'est très bien écrit. On va passer à travers quelques-unes des lignes de son papier qui s'intitule « De l'hommage au racisme ». Donc Paul Journet écrit « On s'imagine mal des milliers de supporters hurler « Go les Juifs » ou « Go les Chinamen ». Alors pourquoi serait-il acceptable de le faire avec les Indians de Cleveland dans la série mondiale de baseball qui s'amorce ces jours-ci? Cela mérite une explication. Pour les Indians, il n'y en a pas vraiment de bonne d'explication. Mais cela ne signifie pas qu'il faille éliminer toutes les références aux Premières Nations dans les équipes sportives. Une telle chasse au logo serait absurde car elle effacerait une mémoire sous prétexte de la respecter. Selon le Congrès national des Indiens d'Amérique, la majorité, environ 2000 sur 3000 des références offensantes ont été retirées des équipes amateurs et professionnelles depuis 1980. Parmi les plus controversés qui restent encore à ce jour, il y a les Redskins de Washington au football américain et les fameux Indians de Cleveland qui se retrouvent justement dans la ronde éliminatoire des séries mondiales de baseball. Et c'est pourquoi Paul Journet saisit l'occasion pour parler de ce sujet. Donc, dans les deux cas, donc Redskins et Indians, la pression augmente de plus en plus de la part de la société civile, des élus et de différents groupes. L'année dernière, écrit-il, une cour fédérale américaine a retiré aux Redskins les droits sur leur nom, car on ne peut pas breveter le racisme. Ils ont donc perdu le monopole qu'ils exerçaient sur leurs lucratifs produits dérivés. Même si on peut débattre de l'origine historique et du terme et des intentions de l'équipe au moment de se baptiser ainsi en 1933, une chose reste indéniable, affirme Paul Journet dans cet article. Le terme peau rouge est devenu une insulte. Quant aux Indians, l'équipe de baseball des Indians de Cleveland, des commentateurs refusent désormais, en 2016, de les appeler par leur nom. La semaine dernière, une injonction a été demandée, puis refusée, pour bannir le logo et le nom lors de la demi-finale des ligues majeures à Toronto. Ce logo est vieux de 101 ans. Il montre le souriant chef Wahoo, un personnage de bande dessinée. C'est donc une caricature de caricature, écrit Paul Journet dans cet article. Et en plus, le personnage est baptisé d'un terme générique qui ne symbolise rien, à part les préjugés des premiers colons blancs américains. Bien sûr, un nom d'équipe n'est pas un poème ou une dissertation, rappelle Paul Journet. On cherche un symbole, ce qui rapproche inévitablement du cliché. Et dans la petite guerre codifiée du sport, ce symbole doit exalter la bravoure. Voilà pourquoi existent les Buccaneers, les Vikings et les Fighting Irish. Rien de subtil ou de pacifiste là-dedans. Alors, quel est le problème avec les Indians, demande Paul Journet. Le léger bagage historique, et là évidemment il fait preuve d'un il use d'un euphémisme si vous voulez, un léger bagage historique, car dit-il, les Premières Nations ont été victimes d'un génocide culturel. Après avoir tué une culture, on l'attaque une deuxième fois en la déformant jusqu'au ridicule. Alors voilà, le texte se poursuit il est très éclairant, puisque Paul Journet fait la part des choses. Il y a des équipes qui ont mérité leur nom, comme les Seminoles de Floride, qui représentent l'Université de Floride. Seminoles étant le nom d'une tribu. C'est un nom d'équipe qui a été approuvé par les nations locales, les Premières Nations locales, et ça s'est fait en collégialité et en amitié entre fans, supporters de sport et Premières Nations. Donc il y a des cas qui ne nécessiteront pas de révision, et c'est ce que Paul Journet souligne. Il dit aussi dans son article que le nom des Black Hawks de Chicago ne doit pas être changé, puisque il y a derrière ce nom un respect et une histoire, et il explique d'où vient le nom des Black Hawks justement, et c'est très éclairant. Donc c'est à lire dans la presse, le journal La Presse, sous la plume de Paul Journet. De l'hommage au racisme, c'est le titre de cet éditorial. Donc voilà pour la revue de presse des éditoriaux. On court tout de suite à l'interview dans quelques instants. Comme je vous le disais en intro, on parle de la manifestation qui a eu lieu en début de semaine à Ottawa. Des étudiants ont manifesté sur la colline parlementaire et ont posé des gestes de désobéissance civile. Ils se sont fait arrêter volontairement, c'était délibéré. Et il voulait ainsi attirer l'attention sur le projet controversé de pipeline Trans Mountain ici en Colombie-Britannique. Donc c'est une manif qui a eu lieu à Ottawa, mais qui nous concerne directement, puisque la motivation de cette manif, et c'était justement de d'apporter un peu d'information et de contester le projet Trans Mountain. On écoute ça dans quelques instants. Notre invité est Jean-Christophe Leblond. À tout de suite. Vous êtes à l'écoute du débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 à Victoria. Il est presque 17 heures. C'est le moment de passer au bloc interview. Je rejoins à Montréal notre chroniqueur régulier Jean-Christophe Leblond. Bonjour Jean-Christophe.
Oui, bonjour Alexis.
Alors aujourd'hui, on rapporte un événement qui s'est passé lundi en début de semaine du côté d'Ottawa. Une manifestation étudiante a visé le projet Kinder Morgan Trans Mountain, qui est un projet de pipeline. Est-ce que tu peux m'indiquer un petit peu ce qui s'est passé grosso modo?
Ben, grosso modo, il semble qu'il y a environ 200 manifestants, surtout des étudiants universitaires qui ont tenté de s'approcher du Parlement. Le site était bloqué par des barrières. La GRC veillait. Il semble qu'il y a eu une centaine d'arrestations. Il y a personne qui a été accusé de quoi que ce soit en fin de compte. La police a remis des avertissements, semble-t-il, en fin de compte, après avoir détenu les gens une heure. Et donc, les manifestants, essentiellement, voulaient rappeler à Justin Trudeau qu'il a pris des engagements concernant le climat et que ça, c'est en opposition directe avec le fait d'approuver des projets de pipeline, dans ce cas-ci, spécifiquement le projet Trans Mountain Pipeline de Kinder Morgan.
Parfait. Donc, on comprend que ces arrestations ont été voulues par les étudiants. C'était délibéré, non pas des arrestations, mais des contraventions. Ils ont reçu une contravention. Ils voulaient vraiment traverser dans la zone interdite de la colline parlementaire pour se faire intercepter par la GRC et attirer davantage l'attention. Donc, c'était délibéré, n'est-ce pas, Jean-Christophe?
Oui, en effet. Je pense que c'est une réaction, là, ce genre d'action-là, c'est un peu une réaction face à l'invisibilisation des questions d'ordre écologique dans les médias en général. Il y a un peu, même pour ce qui est, par exemple, de cette manifestation, en fait, on ne retrouve pas tant de couverture médiatique que ça dans les médias dits traditionnels.
D'accord. Donc, une centaine d'étudiants ont été arrêtés. En fait, c'est une technicalité. Ont-ils été arrêtés? Ont-ils reçu une contravention? En tout cas, ils ont été interceptés, ça c'est certain, et se sont vus remettre une citation à comparaître. Donc, si on peut peut-être rappeler les faits, le pipeline Trans Mountain, c'est un pipeline qui existe déjà. Il a été bâti dans les années 50 et la compagnie Kinder Morgan veut en tripler la capacité. Donc, ça pose des questions très importantes au niveau des déversements possibles, des bris de pipeline et des déversements dans le littoral, donc dans les eaux environnantes de Vancouver et de Burnaby. Une forte opposition de la société civile s'est mise en place. Et tu m'as indiqué aussi, Jean-Christophe, que certaines villes s'opposaient à ce projet.
Oui, en effet, c'est important de souligner justement que l'opposition à ces projets de pipeline ne vient pas d'une frange, seulement d'une frange grande et hippie, comme certaines personnes aimeraient nous le faire croire. C'est une opposition qui est de plus en plus généralisée. Par exemple, la ville de Vancouver elle-même, les élus de la ville de Vancouver ont pris position contre le projet et demandent à ce qu'il soit bloqué. De même pour un autre projet de pipeline, le projet Énergie-S, tout récemment, il y a la de Edmonton, les élus de la ville de Edmonton, le conseil municipal qui a voté contre le projet qui doit traverser leur municipalité parce qu'il y a des inquiétudes très réelles par rapport à, par exemple, à la contamination des plans d'eau dont dépendent les municipalités pour s'approvisionner en eau potable.
Oui, bien remarqué, bien observé, et on sait que ce pipeline Énergie Est, qui concerne l'est du pays, comme son nom l'indique, traverserait plus de 800 cours d'eau. On remarque que les municipalités du pays font peser leur pouvoir. Montréal s'est aussi opposé à Énergie Est. Et concernant Kinder Morgan, dont on parle actuellement dans cette émission, eh bien, tu signales l'opposition de Vancouver. Burnaby aussi, qui est une ville qui est périphérique, donc une ville de banlieue de Vancouver, qui compte de nombreux habitants, s'est opposé aussi formellement à ce projet de Kinder Morgan. La ville de Victoria s'est aussi opposée par la voix de sa maire Lisa Helps et on a même une opposition de la part de la province de Colombie-Britannique formulée par le gouvernement de Christy Clark qui a posé 5 conditions à la réalisation du pipeline Kinder Morgan, conditions qui n'ont pas encore été rencontrées. Voilà. Donc, est-ce que on doit supposer que les jeunes vont être un peu les fers de lance du mouvement d'opposition au pipeline dans les prochains mois, selon toi, Jean-Christophe?
En fait, ce qui est intéressant, là, ce qu'ont fait remarquer les manifestants, entre autres, c'est que les jeunes de 18 à 24 ans étaient un bloc qui a voté massivement pour le gouvernement libéral. Donc, le gouvernement qui est au pouvoir actuellement à Ottawa a beaucoup obtenu du vote des jeunes et c'est aussi le groupe d'âge qui est le plus opposé au projet de pipeline et qui est le plus sensible aux questions environnementales là, d'après un sondage pour des raisons, c'est que c'est eux qui vont avoir à vivre le plus avec les conséquences là, de la crise écologique qui est en train de se préparer.
Oui, tu fais bien de faire observer que le gouvernement majoritaire de Justin Trudeau doit beaucoup à l'appui massif des jeunes. Tu indiques 45% d'appui chez les 18-24, c'est énorme. Justin Trudeau qui s'est d'ailleurs fait rappeler les promesses de sa campagne à Ottawa cette semaine lors d'une rencontre avec des jeunes syndicalistes qui lui ont tourné le dos lors d'une séance de questions-réponses. Alors, la pression est appliquée. Espérons que les jeunes, justement, pourront susciter un mouvement plus large. Il y a des groupes qui sont très mobilisés, les groupes environnementaux, les Premières Nations, bien sûr, et même les villes, dans certains cas. Je voulais...
Oui, absolument. Ben, ça, c'est encore une fois, c'est... c'est important de souligner aussi l'opposition des Premières Nations là, à plusieurs de ces projets de pipeline, là, dont le Trans Mountain et le projet EnergyF. Mais encore une fois, il y a une certaine ironie dans le fait, ben, c'est-à-dire que c'est pas une ironie, mais c'est un peu triste de remarquer encore une fois que Justin Trudeau a fait grand cas des Premières Nations pendant sa campagne électorale et lors des élections et lorsqu'il était à Paris pour négocier le traité là, COP21 concernant la restriction là, des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, encore une fois, on voit que malheureusement, dans les faits, sur le terrain, on dirait que cet espoir qu'il a suscité est en train d'être déçu.
Ben oui, il y a quelques semaines à peine, Jean-Christophe, on se parlait dans cette même émission de l'appui qu'avait tout juste accordé le gouvernement Trudeau au pipeline Pacific Northwest, qui est un pipeline de gaz naturel liquéfié dans le nord de la Colombie-Britannique, un projet de 36 milliards qui a été approuvé et qui allait à l'encontre des promesses de la plateforme libérale de 2015. Alors, les gens commencent à déchanter. Les gens qui ont appuyé le gouvernement Trudeau ici en Colombie-Britannique voient certaines de leurs illusions brisées. En tout cas, c'est le cas de certains. Ce pipeline Petronas a été accepté. On saura si l'expansion de l'oléoduc Trans Mountain de Kinder Morgan est approuvée. Je rappelle à nos auditeurs qu'il y a eu une approbation de l'Office national de l'énergie au mois de mai. Ensuite, la réaction de la société civile s'est fait entendre. Le gouvernement Trudeau a dépêché un comité itinérant pour entendre les citoyens et ce comité doit rendre un rapport le mois prochain, en novembre, et la décision de Justin Trudeau devrait tomber en décembre. D'après toi, Jean-Christophe, selon tes lectures et tes intuitions d'observateur, est-ce que le gouvernement Trudeau va approuver le projet d'expansion Kinder Morgan?
Écoute, c'est très difficile à prévoir. Évidemment, j'espère que non, parce que là encore, il y a quand même eu une certaine promesse d'ouverture et d'écoute lors de la campagne électorale que Trudeau a menée. Clairement, il y a une opposition très forte au projet de pipeline. Par contre, évidemment, il y a une pression énorme de la part de l'Alberta en particulier et de la part donc des compagnies énergétiques là, qui sont quand même des très, très gros joueurs. Donc, je ne m'aventurerai pas à émettre une prévision quant à la position que va adopter le gouvernement Trudeau. Mais c'est certain que quand on va voir ce qu'il va décider, ça va vraiment les masques vont tomber. On va savoir où il se situe et dans quelle mesure ce qu'il nous a fait miroiter pendant la campagne, c'était du sérieux ou au contraire du vent.
Oui, les masques vont tomber. Bonne image. C'est très éloquent. Connais-tu Warren Buffett, Jean-Christophe?
Ben, un petit peu, oui.
Alors, ce milliardaire investisseur qu'on appelle l'oracle d'Omaha, puisqu'il réside dans la ville d'Omaha, c'est un multimilliardaire investisseur de renom. Il a investi ces derniers mois des sommes colossales dans Kinder Morgan. Je te le rapporte parce que je l'ai aperçu dans la chronique d'un journal gratuit, le 24 heures de Vancouver. C'est sous la plume de Bill Telemann qui rapporte que l'opposition molle de Christy Clark va bientôt tomber. Et que Trudeau, de son côté, va donner son feu vert à Kinder Morgan. Et il laisse entendre que Warren Buffett a senti le vent tourner en faveur du pipeline. Et donc, il a investi cet été des sommes importantes dans Kinder Morgan. Alors, voilà. Alors, Les lobbies énergétiques, comme tu le disais, les forces du marché sont très, très puissantes. Tu fais bien de ne pas t'aventurer à faire des prédictions.
Bon, ben merci de confirmer que ma prudence est fondée.
D'accord. Ben, Jean-Christophe, merci beaucoup. On va certainement se reparler du dossier Kinder Morgan Trans Mountain, qui est un dossier qu'on connaissait déjà du temps de Stephen Harper. C'est pas nouveau. Il a atteint comme un point culminant. On va avoir des réponses. Comme tu le disais, les masques vont peut-être tomber. C'est à suivre. En tout cas, merci d'avoir pris quelques instants pour discuter avec moi aujourd'hui dans le débrief.
Merci Alexis. À la prochaine.
À bientôt. Presque 17h à l'antenne de CILS FM 107,9. Merci Jean-Christophe. C'est déjà la fin de cette édition du débrief. Merci de nous avoir suivis dans ces 60 minutes d'information en direct ou en rediffusion. On a actuellement 10 degrés actuellement sur Victoria. Ça demeure nuageux ce soir et demain avec une probabilité d'averse qui demeurera à 40%. C'est Alexis Gagnon au micro. Excellente soirée à tous. Thank you.